Il est vrai que les footballeurs en rajoutent toujours un peu. Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, là oui, ils ont bien raison d'exulter plus que de raison, car leur joie est contagieuse. Mais quand ils se font mal sur le terrain, la comédie est parfois grotesque. Ou alors la douleur est réelle, mais le spray, lui, est magique. Oui, les joueurs souvent se remettent à galoper gaiement après une chute apparemment très douloureuse, car on leur a vaporisé un spray réfrigérant. Ma parole, ce sport a réinventé le bisou magique. Et oui, peut-être n'y a-t-il rien dans ce fameux spray, mais pas plus que dans le bisou de papa ou de maman qui soigne si bien la douleur des enfants après une chute. On appelle ça l'effet placebo. Il en sera question aujourd'hui, car on va parler des petites granules blanches qui sont une vraie passion française. L'homéopathie, dont beaucoup disent qu'elle fonctionne seulement grâce à l'effet placebo. Le débat n'est pas neuf, mais il revient sur le devant de la scène avec la régularité d'un métronome, mais la charge cette fois est assez massive. Une tribune de 124 médecins publiée dans le Figaro contre les médecines alternatives a fait grand bruit. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'y est mis aussi. Et même la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle a ouvert la porte à un éventuel déremboursement en annonçant que l'homéopathie allait être soumise à une évaluation. Car il est bien là, le nerf de la guerre, le déremboursement. Les médicaments homéopathiques sont en partie remboursés par la Sécurité sociale sans avoir fait preuve, disent ses opposants, de son efficacité. Ça n'empêche pas que les Français en consomment en masse. Et les témoignages de ceux qui assurent que les granules les soignent vraiment sont très, très, très nombreux. Faut-il dérembourser l'homéopathie? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et je vous présente les trois médecins que nous avons invités pour ce débat. Les patients, qu'ils soient d'ailleurs convaincus ou non par l'homéopathie, participeront aussi largement en nous écrivant sur franceinter.fr, rubrique Le débat de midi. Bonjour Hélène Renoux.
Bonjour.
Médecin généraliste, vous êtes homéopathe, présidente de la Société savante d'homéopathie et du comité européen d'homéopathie. François Morel est à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Alors je suis obligée de préciser aux auditeurs, veuillez m'en excuser, que vous n'êtes pas leur François Morel, mais un homonyme. Rien à voir donc avec le chroniqueur du vendredi. Vous êtes chirurgien à Rouen et vous êtes l'un des signataires de la tribune contre les médecines alternatives que je viens d'évoquer. Notre troisième invité est venu exprès du Canada. Bonjour Martin Winkler.
Bonjour.
Bienvenue. En fait, on a profité de votre passage en France pour vous inviter. Médecin et écrivain, auteur bien sûr notamment de la maladie de Sachs. Vous n'exercez plus la médecine depuis quelques années. Vous enseignez notamment à Ottawa et à Montréal. Votre dernier livre, Des brutes en blanc, disponible chez Point, est consacré à la maltraitance médicale. Un mot d'abord sur le Canada. Le sujet est-il aussi sensible au Canada qu'en France?
Non, parce que l'homéopathie n'est pas une... et pas une méthode qui est répandue.
Mmh. Donc c'est bien une passion française.
C'est pas seulement une passion française. Bah, c'est-à-dire que c'est né en Europe, né en Allemagne. Donc il est logique que ce soit plus répandu en Europe que dans les pays d'Amérique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recours de la part d'un certain nombre de patients à des pratiques dites, enfin qu'on pourrait dire alternatives. Seulement, la perception qu'on en a est une perception moins noir et blanc.
Allez, je donne la parole dans un très court instant à mes invités. On reçoit déjà beaucoup de réactions sur Twitter, hashtag débat de midi et par courriel depuis la page de l'émission sur franceinter.fr. Je l'en lirai quelques-uns, évidemment. Voici d'abord Barba Gallo sur France Inter, programmation musicale pour le débat de midi signé Jean-Baptiste Audibert, émission préparée par Irène Menahem, réalisée par Fabrice Laigle, avec Arnaud Caillet à la technique, sans oublier nos précieux stagiaires Samuel Evenot et Aurore Mansip. Bienvenue à tous. Thank you.
ne sont pas faits pour nos mirettes. C'est peut-être là que tu t'en vas. Quand j'ai perdu ma plume,
son troisième album sorti récemment s'intitule « Danse dans les ailleurs ». C'était Barba Gallo sur France Inter, La Lune. Le débat de midi s'intéresse aujourd'hui à l'arnica, au sédatif PC, à l'oscillococcinum ou encore au camélia, une passion française, l'homéopathie.
Là, je vais prendre en fait mon homéopathie. Moi, avant, j'étais au moins malade une fois dans l'hiver. Là, ben, depuis 3 ans, je vous dis, je ne le suis plus.
Bonjour Martine. Figure-toi qu'il m'arrive une chose affreuse, ou plutôt deux choses affreuses d'ailleurs. Je suis complètement déprimé, je suis venu voir Paul.
T'es venu voir pour l'allopathie ou pour l'homéopathie?
Hein?
La granule d'homéopathie, c'est du sucre, hein. Ce n'est que du sucre. Il n'y a aucune autre chose que du sucre. Ça n'a que l'effet de l'acte de prendre quelque chose.
Les clients qui attendent, ils viennent pour l'homéopathie ou l'allopathie?
Touche pour l'homéopathie, madame.
Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe! Pas homéopathe, allopathe!
Comme c'est extrêmement dilué, forcément, on se pose des questions. Pourquoi et comment, avec de si faibles doses, et quand il n'y a plus de matière, etc. Et on a énormément glosé sur la question. Mais la preuve de l'efficacité, bah, elle n'est plus à faire. Hein.
Martine, je t'en supplie, écoute-moi. L'homéopathie, c'est l'avenir. Tous les jours, j'ai des coups de fil de collègues allopathes qui me demandent de leur envoyer du monde. Leur cabinet se vide, les gens en ont marre d'avaler des drogues qui les rendent encore plus malades qu'avant. Moi, mon carnet de rendez-vous, il est plein, 3 mois à l'avance.
Et dans ce petit cocktail sonore, on entendait notamment le film La Crise de Colin Serrault avec un cabinet d'homéopathes victime de son succès. Le film date de 1992 et le sujet suscitait déjà des crispations. François Morel, je rappelle que vous êtes chirurgien, l'un des signataires de cette tribune au vitriol contre les médecines alternatives. Fausse thérapie à l'efficacité illusoire, lit-on notamment. Une science nourrie par des charlatans, lit-on encore. Pourquoi est-ce que vous estimez que la sécurité sociale ne devrait plus du tout rembourser l'homéopathie puisque ça fait partie des demandes qui sont listées à la fin de cette tribune?
Alors, la tribune ne porte pas que sur l'homéopathie, la tribune porte sur plein de choses. Elle porte sur une moralisation générale de la médecine, pas uniquement de l'homéopathie. Pourquoi ne pas dérembourser l'homéopathie ou n'importe quelle thérapie qui n'a pas fait ses preuves, qu'elle soit dans la médecine, qu'on va dire, conventionnelle ou qu'elle soit d'une médecine alternative, complémentaire, tout ce que vous voulez. Et c'est pour une raison purement, on va dire, au départ éthique, puis au moins intellectuelle. Enfin, je veux dire... Si vous avez des traitements qui se forcent à faire leurs preuves pour pouvoir être efficaces et ensuite qui sont réévalués en permanence, même certains qui sont passés au travers des mailles du filet, on va forcément parler des erreurs médicales qu'on a pu avoir et des médicaments qui ont été mis sur le marché et ensuite qui ont été déremboursés parce qu'ils avaient, fait preuve de leur inefficacité, voire de leur dangerosité. Mais si toute la médecine s'efforce de faire ça, toute la médecine doit s'efforcer de faire ça. Si on doit rembourser quelque chose, eh bien elle doit être remboursée pour quelle ? Elle doit être remboursée pour de bonnes raisons. C'est l'argument principal qui est derrière. Derrière, on n'est pas contre le principe, on est juste pour des choses qui sont efficacement prouvées.
Le remboursement par la sécurité sociale donne-t-il, à votre avis, une caution scientifique à ces pratiques médicales ?
Je pense que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. Il faut qu'il y ait une caution scientifique pour avoir remboursement. Ce n'est pas le remboursement qui est une caution scientifique, puisqu'il y a plein d'éléments.
Et ça renforce cette image-là, selon vous ?
Mais ça devrait l'être si c'était vraiment le cas. Sauf qu'il y a aussi des médicaments qui font preuve de leur non-efficacité, qui sont donc déremboursés. Donc, il y a aussi les transitions. Mais à partir du moment où c'est remboursé, ça doit être au minimum réévalué, si ça n'a pas été évalué à un moment.
Hélène Renoux, médecin généraliste et homéopathe, hein, puisque vous n'avez plus le droit, je crois, de dire médecin homéopathe, c'est vrai ça ?
Je crois qu'on ne l'a jamais eu. Hein.
Non, le conseil de l'ordre des médecins, en tout cas.
Généraliste, orientation homéopathie.
Orientation, vous êtes aussi la présidente de la Société Savante d'Homéopathie. Que répondez-vous ?
Alors en fait, on se trouve, mais ça c'est quelque chose, c'est comme un cauchemar, on se trouve enfermé dans un piège, qui c'est le piège du placebo. Alors il y a les gentils qui disent c'est un placebo utile, vous faites preuve de bienveillance et d'écoute. Puis il y a les méchants qui disent vous êtes un placebo condamnable, donc on va vous retirer du champ de la médecine. Et moi je dis nous ne sommes pas un placebo.
C'est pourtant ce que disent beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent.
Ils disent quoi ?
Au pire c'est un placebo et donc tant mieux parce que ça ne fait pas de mal.
En fait, Les études, elles existent. Elles sont moins nombreuses que dans la médecine conventionnelle, mais elles existent. Et elles sont complètement occultées. En fait, tout le monde se base sur une énorme méta-analyse qui a été réalisée par le gouvernement australien, par une agence qui est proche de, qui ressemble à l'INSERM, hein, sur les deniers du contribuable australien. Cette méta-analyse, elle a recensé 187 revues entre 1997 et 2013. C'est pas rien, il y en a des études de fait, hein. Et elle était positive, elle était en faveur de l'homéopathie. Et elle a été mise sous le boisseau et on a modifié les critères d'évaluation. C'est comme vous avez un étudiant, vous voulez le coller, il a des bonnes notes, ben vous changez la grille de correction. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, on a mis des critères qu'on n'avait jamais utilisés auparavant, qui étaient d'une sévérité extrême, pour enfin virer l'homéopathie dans le camp du placebo. Et maintenant, tout le monde répète, sans l'avoir lu, les résultats de cette étude qui est tronquée. Et moi, je peux vous donner plusieurs exemples où l'homéopathie a fait sa preuve. Ce n'est pas du placebo.
Donc vous reconnaissez, Hélène Renoux, qu'aucune étude scientifique sur le sujet n'emporte l'adhésion de la communauté scientifique, mais vous remettez en cause les méthodes de ces études.
Je dirais pas qu'aucune n'emporte l'adhésion. Je dirais qu'en fait, les gens se basent sur une parole tronquée alors qu'ils n'ont pas lu. On peut pas adhérer quand on n'a pas lu. Je dirais, on fait des évaluations sur l'homéopathie sans les homéopathes. Est-ce que c'est scientifique?
François Morel.
Alors moi, l'étude australienne, je l'ai lue, comme toutes les études, puisque je suis quand même pas signé. Enfin, je suis non seulement signataire, mais je suis également un des auteurs de la Tribune. Mmh. Donc les études, on les a lues. La méthode scientifique de base admet un certain taux d'erreur, forcément. On essaye de conclure. On n'essaie pas d'éliminer l'existence de quelque chose, on essaie de montrer soit l'existence de quelque chose, et quand on a échoué suffisamment longtemps à montrer l'existence de quelque chose, on détermine que cette chose, on peut déterminer qu'elle n'existe pas. Sauf qu'on a un pourcentage d'erreur, on peut se tromper. Généralement, c'est fixé à 5% en médecine. Donc, on est en droit de s'attendre à avoir environ 5% d'études qui vont dire bah « non, mais si, ça marche ». Et on ne dit pas que ça ne marche pas. On n'a jamais dit que ça ne marchait pas. Bien sûr que ça marche, mais pas au-delà de l'effet placebo. Et là, on ne sera pas d'accord sur ce point à tous les niveaux, mais ce n'est pas 187 études, c'est 2000, 3000, 5000 études. On en trouvera toujours 5%, plus ou moins modulo quelque chose, qui seront potentiellement positives. Mais l'immense majorité des études sont négatives. Rajouter derrière à ça que ça tient sur aucun fondement, ni scientifique, ni physique, ni chimique, ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas en faveur de l'homéopathie.
Hélène Renoux, si vous me permettez de poser la question de façon aussi naïve, comment ça marche, selon vous, l'homéopathie ?
En fait, en médecine, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on constate des médicaments qui marchent. Par exemple, il y a 2 siècles, on s'est aperçu que la quinine traitait les fièvres récurrentes. On a mis 2 siècles à identifier les alcaloïdes responsables de l'effet. Donc en fait, là pour l'instant, dans l'état actuel des recherches, je peux pas vous dire comment ça marche. On a des pistes, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent, qui évoquent différentes possibilités, mais c'est pas parce que ces laboratoires n'ont pas fini leurs études qu'on va se priver de traitements qui prouvent leur efficacité et pour lesquels les gens sont satisfaits.
Voici ce que nous écrit un auditeur, il s'appelle Joël, il nous a écrit un courriel. Si l'homéopathie est un placebo et ne fonctionne que si on y croit, comment expliquez-vous que cette médecine puisse guérir des animaux, et particulièrement des animaux de ferme, les vaches, les cochons, les lapins? Je ne connais pas de paysans dépensant de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Que répondez-vous? On va donner la parole à Martin Vinclair qui n'a pas encore parlé.
Alors, il y a beaucoup de choses en même temps.
Peut-être d'abord, en préambule, votre opinion sur la question qui nous occupe aujourd'hui.
Mon opinion,
faut-il dérembourser l'homéopathie?
Alors, oui, de la même manière qu'on dérembourse des médicaments censés traiter la maladie ou prévenir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, et qui n'ont pas montré qu'ils étaient efficaces, mais qui ont des effets secondaires, etc. Je pense que c'est de bonne guerre quand on a... Il y a aussi une notion économique, c'est que vous avez une certaine somme qui doit être allouée aux soins des gens. Il y a des gens qui ont des maladies extrêmement graves, qui ont besoin de cet argent. Allouer de l'argent au remboursement de médicaments qui n'ont pas fait leur preuve, c'est pas seulement un problème éthique, c'est aussi un problème éthique, je suis d'accord avec François Morel, mais c'est aussi un problème de justice d'allocation des ressources. Hein. Ça, c'est quelque chose à quoi il faut... De la même manière, je viens juste de lire un livre qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle « Ending Medical Reversal », c'est-à-dire pour mettre fin au volte-face médicale, c'est-à-dire justement ce que disait François Morel. On se rend compte qu'une méthode qui a été utilisée pendant des années, en fait, n'est pas efficace, voire même est négative. Et là, il s'agit de biomédecine, il ne s'agit pas de médecine alternative. Il y a énormément de procédures médicales qui non seulement n'ont pas montré leur efficacité, mais qui en plus se révèlent être négatives. Et pourquoi elles ont été mises en place? Elles ont été mises en place parce que, à partir de d'hypothèses physiologiques, on s'est dit, tiens, c'est logique, par exemple, de faire ceci pour obtenir tel résultat. Et puis on s'est mis à le faire. Et puis au bout de 10 ou 15 ans, il y a des gens qui ont dit « je suis pas sûr que ça marche si bien que ça ». On a fait ce qu'on appelle un essai comparé, c'est-à-dire on compare ça et une méthode placebo. Et on se rend compte que ça ne fait pas mieux que le placebo. Alors, en ce qui concerne l'homéopathie, moi j'ai commencé à faire ma formation scientifique à la revue Prescrire dans les années 80. C'est pas tout jeune. Et on s'intéressait beaucoup, beaucoup à l'homéopathie à l'époque. Et il n'y avait aucun argument scientifique qui pouvait dire que l'homéopathie avait un effet supérieur à celui du placebo. Néanmoins, l'effet placebo, c'est pas rien. Et là, on en vient à la question de votre...
Sur les animaux.
Il y a eu énormément de travaux sur le placebo. Non seulement le placebo marche chez le nourrisson, non seulement il marche chez les animaux, parce que, et il marche pour deux raisons. La première raison, c'est que l'effet placebo, c'est un effet relationnel. C'est-à-dire que vous prenez la douleur, je suis en train de travailler sur un livre sur la douleur est majorée par l'angoisse. D'accord ? Quand une maman vous amène un enfant, un tout petit enfant qui a mal, il y a déjà un effet sur la douleur de rassurer la mère. Pourquoi ? Parce que si la mère est rassurée, l'enfant est rassuré et il a moins mal. Ça, c'est des trucs qu'on connaît depuis tout le temps. Ça marche aussi avec les animaux parce que l'animal, c'est pas une chose. Un animal, c'est un être vivant qui établit une relation. Moi, j'ai un chat qui établit une relation avec son propriétaire. Quand vous soignez le chat, vous diminuez l'angoisse du propriétaire.
Le chat comprend qu'on le soigne.
Il n'a pas besoin de comprendre qu'on le soigne. Il le sent parce qu'il sent que son maître
s'intéresse à sa douleur.
Et il y a des maladies qui sont spontanément résolutives, c'est-à-dire une maladie virale, par exemple, chez l'individu, mais chez l'animal aussi, ça disparaît tout seul. Vous donnez quelque chose qui a un effet placebo et qui diminue l'agitation de l'animal, il va guérir de toute façon tout seul.
Donc vous pensez, Martin Winkler, contrairement à Hélène Renoux, que ça marche grâce à l'effet placebo, hein, l'homéopathie.
C'est ce qu'on appelle un placebo pur.
Ce serait pas un argument pour ne surtout pas le dérembourser, justement?
Alors, c'est là qu'on en vient au problème de fond. C'est qu'effectivement, je pense que l'effet placebo, les usagers qui vont voir des médecins, quel que soit le type de pratique de leur médecin, et qui se sentent mieux en sortant, ils n'ont pas encore pris le médicament que le médecin leur a prescrit. Bon. Ils viennent d'assister à une manifestation de ce qu'on appelle l'effet médecin ou l'effet placebo. Michael Ballin disait, le premier médicament du médecin, c'est le médecin. Bon. On ne va pas annuler l'effet placebo. Mais l'effet placebo, il peut être donné avec n'importe quoi. Il peut être donné avec un comprimé d'aspirine. Il peut être donné avec des gouttes de perlimpinpin.
Avec un verre d'eau.
Il peut être donné avec des conseils.
Avec une écoute.
Bon. Donc, transférer l'effet placebo sur les médicaments, pourquoi pas? Mais pourquoi rembourser ces médicaments? Alors que maintenant on sait
parce
même.
Parce que ça donne une caution, encore une fois, et que si c'est remboursé, c'est que c'est sérieux et donc ça marche mieux.
Sauf que les anglo-saxons, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur l'effet placebo et ils vous disent, vous savez, on obtient un effet placebo même si on dit aux patients que c'est un placebo.
Et c'est là que ça paraît carrément magique, hein, si vous me permettez l'expression.
Et c'est pas magique du tout. On le voit bien dans le fonctionnement de la douleur. Vous prenez un marathonien qui commence à courir son marathon. Il est très entraîné. Bon, au bout de 10 km, il a mal partout. Au bout de 12 km, il fabrique des endorphines, il sent plus rien. Au point qu'il peut courir pendant 40 km avec une fracture du pied, sans sentir sa fracture du pied, il va la sentir quand il va s'arrêter parce que le stress baissant, il se met au repos, ses endorphines ne marchent plus. Et à ce moment-là, il sent sa douleur.
Hélène Renoux, j'aimerais qu'on en vienne au budget parce que ça coûte 218 millions d'euros par an de rembourser l'homéopathie en l'état actuel des choses. Le budget total remboursement médicaments de la sécurité sociale, c'est 20 milliards. Est-ce que c'est serait pas une goutte d'eau dans l'océan. Et là encore, un argument allant dans votre sens, hein, dans celui de ne surtout pas dérembourser.
Alors moi, j'ai deux arguments. D'abord, 50% des Français ont utilisé l'homéopathie, soit occasionnellement, soit régulièrement. Ces 50% de Français sont des contributeurs à la sécurité sociale. Et je ne vois pas pourquoi les soins de leur choix ne seraient pas pris en charge au tel titre que les autres. Ensuite, si on dérembourse les médicaments homéopathiques, il y a une certaine frange de gens qui vont reporter leur prescription sur d'autres molécules qui sont remboursées et qui sont beaucoup plus chères. Au bout du compte, la sécurité sociale va perdre de l'argent.
Et des molécules qui auront peut-être des effets secondaires et des dépendances.
Parce qu'en fait, non seulement il a été prouvé qu'il n'y a pas de perte de chance en utilisant un traitement homéopathique. Le contraire, il
n'y
a pas de perte de chance, les gens ne perdent pas de chance d'être guéris. C'est-à-dire qu'on peut avoir exactement les mêmes résultats avec un traitement homéopathique, avec un traitement allopathique. Ça coûte quand même 35% moins cher. Alors, pour les anxiétés, les troubles du sommeil, les troubles locomoteurs, les infections ORL, respiratoires.
Il n'y a pas besoin de médicaments pour ça. Il n'y a pas besoin de médicaments. On sait même que pour des crises d'asthme, il y a des études qui sont faites là-dessus. C'est-à-dire qu'on reçoit des enfants qui font des crises d'asthme. On leur a mis soit un placebo, soit un médicament, réputé, efficace sur le plan du bronchospasme. Et après avoir reçu le médicament, la respiration mesurée est meilleure chez les gens qui ont reçu un truc. Mais leur sentiment d'aller mieux est le même. C'est-à-dire que si on se base sur le sentiment d'aller mieux, oui.
Mais moi, je ne me base pas sur le sentiment d'aller mieux. Je me base sur des résultats cliniques.
Mais non, le résultat clinique, c'est de deux ordres. C'est comment est-ce que les gens se sentent et c'est comment on mesure la diminution
capacité respiratoire,
par exemple.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais d'où sortez-vous que les gens sont uniquement étouffent en étant contents? C'est ça, en gros.
Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous pouvez observer une différence de mesure avec un médicament, une autre différence de mesure avec un placebo, que beaucoup de crises d'asthme cessent seules, sans aucune intervention, ou simplement par l'intervention de la présence du médecin, parce que l'angoisse diminue la crise d'asthme, et ça c'est objectif, c'est mesuré. Je vous prends un autre exemple qui est un contre-exemple, on sait tous que la tension artérielle, elle est plus élevée quand c'est le médecin qui la prend, elle est moins élevée quand c'est l'infirmière, et elle est normale quand c'est le patient qui la prend lui-même. Donc ça aussi c'est une illustration du fait que le stress peut être induit par le médecin ou inversement peut
c'est
diminuer.
C'est très réducteur, votre vision de l'homéopathie est très réductrice. Je pense pas que vous ayez étudié l'homéopathie. Vous d'ailleurs non plus, monsieur. Mais
tout
n'empêche
dépend de ce qu'on appelle
étudier. Voilà, sans l'avoir étudié, vous la jugez.
Je voudrais vous lire un courriel d'auditrice qu'on vient de recevoir.
L'homéopathiste, il y a 30
Martin
ans,
Vinclair, s'il vous plaît. Voici ce que nous écrit Monique par mail. Je suis très en colère par tout ce que j'entends. L'homéopathie n'est pas un placebo, écrit-elle. Je me soigne depuis 60 ans par cette médecine et j'en suis fort satisfaite. Il est inconcevable, poursuit-elle, qu'une poignée de médecins coquinés au labo pharmaceutique allopathique viennent décider de ce qui est bon pour moi ou pas. Je donne la parole à François Morel. Ce reproche, on l'entend souvent, hein, les labos pharmaceutiques qui seraient derrière.
D'ailleurs, je vais toucher mon chèque en sortant du studio. J'ai la voiture qui m'attend pour rentrer chez moi. Puisqu'on en est là à parler de ce genre de choses, on va parler des conflits d'intérêts, puisqu'on en est à parler ça. Est-ce que j'ai des conflits d'intérêts? Oui, je me suis fait payer des formations pendant mon internat. Est-ce que j'ai fait un conflit d'intérêts avec des laboratoires à l'heure actuelle? Non. Ma voisine de droite, à l'heure actuelle, lors d'une précédente intervention à la radio, avait dit qu'elle n'avait pas de conflit d'intérêts. Si on va sur transparence.gouv.fr, apparemment, elle en a.
Hélène Renaud,
je vais répondre.
S'il vous plaît, Hélène Renaud.
Là, en fait, j'ai réalisé qu'il y a 2 ans, j'ai suivi une formation continue. Donc, pour laquelle laboratoire Baron a payé le conférencier, la salle et les repas.
Oui, mais pareil pour moi. Mais
voilà.
C'est tout ce que je voulais dire.
Mais comme je n'ai pas touché un centime, que j'ai perdu une journée de boulot et que j'ai payé mon train pour y aller, je ne voyais pas où était le conflit d'intérêt.
Mais c'est ça que j'essaye de vous dire, c'est que définir conflit d'intérêt. Je ne travaille pas pour un laboratoire. Si on va à transparence.gouv.fr, on va se retrouver avec des sommes qui me sont allouées parce que j'ai profité d'un repas dans une formation continue, comme ça. C'est juste ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que si on cherche
cherche, ne l'accusez pas plus que...
Voilà. Mais je vous ai accusé de rien du tout. J'essayais juste de vous faire, de faire remarquer que le conflit d'intérêts, ça veut dire tout et rien.
Ce que disait tout à l'heure Hélène Renoux, pourquoi priver les Français de ces soins auxquels ils tiennent? Vous savez qu'en Suisse, c'est par référendum, ou plutôt par votation, que les électeurs ont décidé de continuer à rembourser la médecine dite alternative, et notamment l'homéopathie. Alors la Suisse a évidemment une culture très forte hein, du référendum, mais pourquoi ne pas envisager la même chose en France? Puisque, comme l'a dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn, les Français sont très attachés à l'homéopathie. Ils pourraient décider eux-mêmes d'assumer ou pas ce coût pour la sécurité sociale, François Morel.
Alors là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est du biais cognitif. Est-ce que l'argument de popularité doit être un argument qui doit rentrer en compte quand on fait de la science? Je ne pense pas. Je veux dire, c'est pas parce que c'est populaire que c'est bien ou efficace. On se doit de proposer des choses qui sont rationnelles. Les moyens qui nous sont alloués sont limités. Vous parliez de 218 millions d'euros. Effectivement, c'est une goutte d'eau sur les 20 milliards. Mais avec 218 millions d'euros, on peut faire plein de choses. Avec 218 millions d'euros, on peut mettre des kinés dans les services de chirurgie. On peut rembourser les vaccins qui pourraient partir à l'étranger.
Mais Hélène Renoux répond que ça coûterait plus cher de ne plus rembourser parce que les patients prendraient autre chose.
Madame Renoux parle de l'étude EPI3, qui est un ensemble de 10 études financées par le laboratoire Boiron, qui est une étude de cohorte. C'est-à-dire qu'on a pris des gens à un instant T, on les a suivis pendant un an chez des médecins généralistes et on a regardé sur certains critères comment ils ont évalué les choses. L'étude EPI3, si on la prend d'un point de vue purement scientifique, elle a ses forces et elle a ses faiblesses. Qu'est-ce qu'elle montre cette étude EPI3? Elle montre une seule chose, la prise en charge homéopathique est bénéfique, mais pas le traitement, c'est la prise en charge qui compte. Qu'est-ce qu'elle mesure?
Donc c'est l'accompagnement du soignant?
Exactement. Qu'est-ce qu'elle montre? C'est que quand on a des consultations longues, qu'on peut prendre du temps avec son patient, qu'on l'écoute, on gagne. Et qu'on n'est pas obligé, on peut lui expliquer les choses et qu'on n'est pas obligé de le médiquer, puisqu'on va partir du principe que l'homéopathie, d'après les études scientifiques, ne fait pas mieux qu'un placebo. Si on l'écoute, si on l'accompagne, si on répond à ses questions, à ce moment-là, on peut désescalader dans la prescription thérapeutique. Si on améliore ce qu'on appelle l'effet contextuel, parce que l'effet placebo, c'est le terme galvanisé, mais le vrai terme, c'est effet contextuel, le contexte qu'il y a autour. Si on majore cet effet contextuel, on va majorer l'effet de la consultation et on va améliorer la prise en charge. Et c'est exactement ce qu'on dit dans la tribune. Et ça va dans ce sens-là aussi. Il faut qu'on arrive à être rationnel, expliquer aux gens, être bienveillant, améliorer la relation médecin-malade.
Allez, on reprend ce débat dans un instant, ce sera juste après Gorillaz, Humility, sur France Inter. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be trained. That's why I'm calling you. I'm good, lonely twin, the left hand. Reset myself and get back on track. I don't want this isolation.
Oh, do I hit out onto the dance?
c'était Gorillaz sur France Inter. Le groupe de Damon Albarn est en tournée mondiale et un concert récent au Danemark a donné des frayeurs aux fans puisque l'un des chanteurs a fait une chute en plein concert. Il a terminé sa soirée à l'hôpital mais a depuis donné des nouvelles rassurantes. Il va bien. On parle de médecine alternative jusqu'à 13h. Certains médicaments homéopathiques sont remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 30%. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que ces médicaments n'ont jamais prouvé leur efficacité et qu'il faut donc cesser de les rembourser.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et on est en ligne à présent avec une auditrice. Bonjour Marilyn.
Oui, bonjour.
Vous nous avez écrit, comme beaucoup d'auditeurs, pour expliquer que vous vous soignez avec ces fameuses granules blanches. Pour soigner quoi précisément? Quelle pathologie?
Alors, moi je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. J'avais des problèmes quand j'étais jeune, âgée 55 ans maintenant, quand j'étais jeune, après la naissance de ma troisième fille, j'avais des problèmes de lourdeur de jambes, et notamment quand il faisait chaud, j'avais tout le temps mal aux jambes. Mm-hmm. Je suis allée voir un phlébologue et qui m'a préconisé du Daflon et des bas de contention. Vous imaginez à 30 ans porter des bas de contention, c'est pas très sexy. Et du coup, je me suis retournée vers l'homéopathe que je connaissais et un ostéopathe qui, conjointement, ont travaillé sur différentes zones de corporelles. Et depuis, je vous dis, ça fait 25 ans, je n'ai plus jamais eu mal aux jambes comme j'avais avant, quand j'étais jeune.
Voilà, des témoignages comme le vôtre, on en a énormément, on en reçoit beaucoup.
Et ça, bon, je peux vous aligner d'autres symptômes. J'ai soigné des angines comme ça, que j'avais répétition quand je prenais des antibiotiques.
Des angines, vous dites?
Des angines.
Oui. Alors, dans votre courriel, voilà. Vous parlez, Marilyn, de la suffisance des médecins qui attaquent ces médicaments. Vous parlez de leur manque d'humilité. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti en consultation?
Moi, je vais toujours voir des homéopathes, donc des médecins homéopathes, même s'ils n'ont pas le droit de dire médecin homéopathe, je précise que ce sont quand même des médecins, qui ne sont pas des charlatans et qui savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas hésité plusieurs fois, enfin, puisque j'en ai eu plusieurs au cours de ma vie, à me donner des antibiotiques parce que j'en avais besoin. Donc, c'est pas des charlatans.
Voilà. Merci.
Et
oui,
moi, quand je dis de la suffisance des médecins allopathiques, c'est allopathes, c'est parce que ils n'ont pas l'humilité de considérer qu'ils ne savent pas comment ça marche et qu'ils pourraient attendre les progrès de la science, comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres domaines de la médecine, attendre de trouver et d'encourager ces recherches pour trouver comment ça marche, plutôt que de condamner et de faire croire que c'est des charlatans, que les homéopathes sont des charlatans.
Ce que vous dites, c'est dans le doute, abstenons-nous de dérembourser.
Mais c'est pas dans le doute, c'est attendons de trouver. Parce que pour beaucoup de choses dans la médecine, ça s'est fait comme ça. Plus on va vers l'infiniment petit, plus on comprend les choses.
Merci beaucoup Marilyn pour ce témoignage. Très belle journée à vous et à bientôt sur France Inter. Je donne la parole à Hélène Renoux qui est médecin généraliste et homéopathe. Si on dérembourse ces médicaments, est-ce que vous craignez que les patients se soignent dans leur coin sans aller voir de médecin justement, en prenant toujours de l'homéopathie?
Je pense que c'est très important, effectivement, que l'homéopathie reste dans le champ, dans le domaine médical. C'est une sécurité pour les patients quand l'homéopathie est pratiquée par des médecins. Et à cet égard, moi, je voudrais mettre un vœu aujourd'hui. Ça serait que les facultés de médecine intègrent une introduction à l'homéopathie dans leur cursus de base. Mais une véritable introduction, pas un quart d'heure, pas des critiques. Parce que pour l'instant, la plupart des étudiants en homéopathie, des étudiants en médecine, sortent de la fac complètement braqués anti-homéo. Et ceux qui s'inscrivent dans les écoles, c'est les rebelles, c'est ceux qui s'insurgent contre un système de santé complètement normatif, qui rabote toutes les aspérités, toute de la singularité de l'individu. Et en fait, on transforme les gens en des trucs carrés qui vont rentrer dans des cases qu'on appelle scientifiques, que moi j'appelle dogmatiques, et qui ne correspondent pas à la réalité de la médecine qu'on pratique au jour le jour.
Voilà qui doit faire bondir François Morel. Vous qualifiez, je le rappelle, l'homéopathie de fake médecine. Vous êtes chirurgien. Donc pas de formation à l'université.
Et on ne doit rentrer à l'université que ce qui a fait ses preuves. Moi, je suis chirurgien, je suis cancérologue. Tous les jours, je prends en charge des patients avec des pathologies qui sont lourdes, avec des prises en charge chirurgicales relativement lourdes. Je ne peux pas me permettre de ne pas leur proposer des soins qui soient adaptés.
D'ailleurs, on entend beaucoup que ces médicaments ne peuvent pas faire de mal. Est-ce que vous êtes convaincu du contraire, François Morel?
Question compliquée. Si ça entraîne un retard de soins, oui. Et j'ai des patients. Alors, le problème, c'est que si on commence à parler d'exemples,
qu'on donne la parole aux auditeurs quand même. Mais je comprends ce que vous dites. Alors,
par rapport à cette auditrice, je voudrais qu'elle sache que c'est pas une question, c'est absolument pas une question de suffisance ou de supériorité. C'est juste qu'on s'astreint à une méthode. Cette méthode, elle nous apprend à justement essayer de nous détacher de nos propres ressentis pour essayer justement d'être le plus objectif possible. Et c'est grâce à cette méthode, qu'on appelle la méthode scientifique, qu'on a réussi à faire évoluer la médecine et la science sur les 100 dernières années. Je sais, elle paraît froide, elle paraît dure, elle paraît inhumaine, mais c'est en s'affranchissant de ces ressentis et de ces impressions qu'on a réussi à faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on a fait avancer la science, c'est comme ça qu'on a fait avancer la chirurgie, domaine que je connais un peu plus que les autres. Est-ce que ça fait un retard de soins? Moi, de mon expérience, tous les patients qui se sont traités à l'homéopathie avant de venir me consulter sont retrouvés avec des lésions qui sont devenues compliquées à opérer, voire inopérables.
Donc les complications sont liées, à votre avis, au retard qu'ils ont pris?
Retard de soins.
Donc, parce qu'ils prenaient des granules.
Mais je ne veux pas utiliser l'exemple, parce que l'exemple est une mauvaise façon de discuter de quelque chose, surtout de discuter de sujets scientifiques.
Hélène Renaud.
L'exemple est un mauvais truc, on ne doit pas
donc,
en parler.
Quelles sont les études que vous pouvez me présenter pour prouver que c'est la dangerosité de l'homéopathie, où sont les victimes?
Non, c'est excusez-moi. Quand quelqu'un promeut une méthode, c'est à lui de faire la preuve que ça marche. C'est pas aux autres de faire la preuve que ça ne marche pas.
Surtout que prouver l'existence de quelque chose, c'est impossible.
Mais en tout cas, quand quelqu'un promeut une méthode, et c'est ce que font les médecins, les biomédecins, c'est-à-dire ceux qui se fondent sur la biologie, et quand ils ne le font pas, ils entraînent des catastrophes. C'est-à-dire que quand on promeut quelque chose, il faut d'abord montrer que ça marche. Or là, vous vous mettez tout le temps dans la position de nous dire « montrez-moi que ça marche pas ». Non, ça, rationnellement, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis d'accord avec François Morel et avec vous sur le fait que le médecin homéopathe, quand il aborde des patients, peut leur faire beaucoup de bien. J'en doute pas, je veux dire, je l'ai toujours su, parce que pour moi, la relation thérapeutique, quel que soit le praticien qui l'exerce, quand elle permet au patient de s'exprimer, et en particulier de réfléchir à ce qui lui arrive, c'est toujours bénéfique. Pourquoi est-ce que, par exemple, les 200 millions d'économies de l'homéopathie ne seraient pas alloués...
128.
À payer,
hein? 128.
Ou 128, peu importe, d'économies de l'homéopathie. Mais d'autres médicaments biomédicaux, qui ont été mis sur le marché abusivement, qui ont été remboursés, qui devraient être remboursés, c'est-à-dire cet argent qui serait économisé sur les médicaments qui n'ont pas d'efficacité démontrée et qui peuvent entraîner des retards thérapeutiques, voire des effets secondaires. C'est pas le cas de l'homéopathie, c'est ce qu'on appelle un placebo pur, il n'y a pas d'effet secondaire. Pourquoi est-ce que cet argent ne serait pas alloué, justement, à des consultations longues, que tous les médecins pourraient exercer, médecins qui pratiquent l'homéopathie ou non, qui serait dévolu à rassurer, à expliquer aux gens pourquoi ils n'ont pas besoin de traitement. Parce que cette dame qui vient de nous appeler, il y a beaucoup de médecins qui lui auraient expliqué qu'avec des soins personnels qui ne lui auraient rien coûté, elle n'aurait pas eu besoin de traitement et ses douleurs auraient disparu.
Bon. C'est un mot qu'on n'a pas encore employé d'ailleurs, l'individuation, je crois. C'est ça, c'est l'un des principes importants dans le soin homéopathique, Hélène Renaud. S'adapter toujours aux patients qu'on a en face de soi.
Normalement, tous les médecins sont censés pratiquer
l'individualisation,
la bienveillance, et l'écoute et les conseils. Je ne vois pas pourquoi...
Personne ne dit le contraire.
Voilà.
Donc
en fait, notre plus, il n'est pas là. Il y a autre chose. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Cette dame, cette auditrice, vous lui faites savoir qu'elle a tort de penser que c'est le médicament homéopathique qui a soigné ses varices.
Ce sont ces deux médecins qui ont soigné ses douleurs. Elle parle de douleurs, elle ne parle pas de varices. Elle vous dit « j'avais mal aux jambes ». La douleur, c'est un symptôme individuel qui est atténué ou calmé par le fait que quelqu'un s'occupe de vous.
Hélène Renaud.
Voilà. Donc en fait, cette dame, je reprends, a tort de penser que ce sont les médecins homéopathes qui ont soigné.
Non, elle a tort que c'est le médicament.
Laissez-la terminer.
Mais vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Elle a tort de penser que c'est le médicament.
Tort de penser que c'est le médicament qui a soigné ses douleurs de jambes. On est d'accord. Donc, vous allez lui expliquer comment penser bien. Parce que cette dame, elle pense mal.
Non.
Donc, c'est l'inquisition.
Mais pas du tout.
Vous allez lui entrer dans la tête la pensée scientifique, parce que vous êtes détenteur de la pensée scientifique.
Mais pas du tout. Lui expliquer comment son corps fonctionne et comment elle-même a annulé les effets de la douleur avec l'effet de son cerveau, de ses endorphines et de l'effet rassurant des médecins, c'est pas lui dire vous avez tort de penser, c'est lui donner les notions neurophysiologiques qui sont contemporaines.
Je voudrais préciser, on l'a pas encore dit, que le laboratoire Boiron est le leader sur le marché de l'homéopathie. C'est un laboratoire français, 600 millions, même un peu plus, hein, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 salariés. François Morel, estimez-vous que Boiron est un lobby efficace sur ce terrain-là?
Il fait forcément du lobbying pour sa paroisse. On ne va pas le blâmer. Les autres font pareil. C'est un laboratoire pharmaceutique, c'est une industrie. Elle est là pour générer de l'argent. Ensuite, l'éthique interne, je ne veux pas en discuter, c'est pas du tout mon point de vue, mais le laboratoire en lui-même est une entreprise, un laboratoire pharmaceutique est une entreprise. La différence, c'est qu'un laboratoire pharmaceutique, quand il développe un médicament, effectivement, il espère faire de l'argent derrière, mais il est obligé de prouver que son médicament fonctionne pour être mis sur le marché. Ce qui n'est absolument pas le cas de M. Boiron.
Il y a un statut dérogatoire qui, avant l'autorisation de mise sur le marché, mais il y a quand même un dispositif, une procédure d'autorisation pour les médicaments homéopathiques.
Alors, je ne connais pas exactement.
Moi, je la connais.
Hélène Renaud.
Oui, mais c'est pas la question. C'est pas pour l'instant.
Vous confirmez que c'est dérogatoire, que c'est pas le même dispositif avant d'être autorisé la mise sur le marché.
Trouvez-moi des études randomisées, contrôlées en placebo versus homéopathie en double aveugle, équivalent à n'importe quel médicament de la médecine scientifique qui a fait sa preuve avant d'être mis sur le marché. Si vous m'en trouvez une.
Hélène
Renaud. Je veux bien admettre que je me trompe. Mais si vous trouvez une elle-même
On approche de la fin de l'émission, mais allez-y, c'est important cette question de l'autorisation de mise sur le marché.
Alors en fait, si vous voulez, moi par exemple, je sais que vous êtes stomatologue, je ne vais pas juger votre façon de faire parce que je ne connais pas la stomatologie. Mais je sais que les chirurgiens n'ont pas d'études contre placebo parce que ce n'est pas adapté à votre pratique.
Vous vous trompez, il y a des études.
Alors déjà, s'il vous plaît, laissez-la terminer.
Et déjà, je suis chirurgien maxillofacial et cancérologue, je ne suis pas stomatologue.
Et l'autorisation de mise sur le marché nécessite qu'il y ait une indication. Les unitaires homéopathiques n'ont pas d'indication.
Ça peut marcher pour beaucoup de choses, vous voulez dire, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on soigne différentes pathologies. Donc, la procédure d'autorisation de mise sur le marché n'est pas adaptée. On en a fait une autre qui s'appelle l'enregistrement homéopathique. L'enregistrement homéopathique, on doit indiquer précisément qu'est-ce que contient le produit de départ, à partir de quelle dose il cesse d'être toxique, et ensuite il faut qu'on trouve suffisamment de cas cliniques, de matière médicale, de littérature qui prouve qu'il y a un usage homéopathique de ce médicament. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament travaille un par un tous les dossiers de médicaments. C'est pas un passe-droit, c'est pas une dérogation.
Donc, vous êtes en train de me dire que pour être autorisé à être utilisé, il faut un, que vous autoréférenciez vous-même, c'est-à-dire qu'on l'utilise en homéopathie, donc on a le droit de l'utiliser en homéopathie, et qu'il faut avoir prouvé qu'on a suffisamment dilué l'élément pour qu'il ne soit plus toxique.
C'est important, les effets secondaires, François Morel.
Oui, mais ça veut dire que l'une des critères, c'est que ce soit suffisamment dilué pour que biologiquement, il n'y ait plus d'effet.
Secondaire,
toxique.
Toxique, néfaste.
Oui. Il ne peut pas y avoir d'effet néfaste et d'effet actif sans effet néfaste. C'est juste pas possible. S'il n'y a pas d'effet néfaste, c'est qu'il n'y a pas d'effet actif.
Ensuite, je vais juste revenir sur l'individualisation. C'est un argument qui revient régulièrement. On ne peut pas tester l'individualisation. Je vous fais un protocole là, maintenant, où on teste l'individualisation. Vous faites une consultation d'homéopathie individualisée. Le patient va à la pharmacie avec sa prescription. Et ce n'est pas ni le médecin, ni le patient qui détermine s'il a la bonne prescription ou pas. C'est le pharmacien qui lui donne les médicaments, qui randomise la chose, et le patient ne sait pas ce qu'il prend. Là, on fait de l'individualisation.
Ces études ?
Ah non, elles n'existent
pas. Mais si elles existent, donc,
vous êtes en train de me dire qu'il existe des études qui évaluent le traitement homéopathique contre placebo avec individualisation, qui soient positives ?
Oui !
Non, il n'en existe aucune.
Si Robert Matty, en 2014, a publié...
5%, n'oubliez pas les 5%.
une revue méta-analytique où en faveur de l'homéopathie.
Malheureusement, on touche à la fin de l'émission. On se doutait bien qu'on ne vous mettrait pas d'accord sur un tel sujet. Un dernier mot très rapide. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent pour parler de mépris, de médecins bornés, etc. Et notamment, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette haine pour l'homéopathie, écrit un auditeur. Vous pensez que c'est aussi l'une des raisons qui presse les patients dans les cabinets d'homéopathie, Hélène Renoux? La défiance à l'égard des autres médecins, c'est l'une des explications selon vous?
Ça m'intéresse pas tellement de le savoir.
François Morel.
Mais il n'y a absolument pas de haine contre l'homéopathie. C'est justement ça qui est. En fait, on n'est pas contre l'homéopathie. On est pour les soins qui marchent. C'est ça la grande différence. Que ce soit l'homéopathie ou un médicament qui ne fonctionne pas, comme les médicaments pour la maladie d'Alzheimer, on n'est pas contre. Enfin, on n'est pas contre. On est pour ce qui fonctionne. C'est juste ça.
Et on a bien compris que le débat aurait pu durer plusieurs heures. Merci beaucoup à tous. Oh, mais vous reconnaissez cette intro? Oui, c'est elle. Voici France Gall sur France Inter.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste.
Et il y a des chances pour que vous fredonniez cette chanson toute la journée. France Gall en 1981. À l'époque, la France n'avait jamais gagné la Coupe du Monde de football. Place à la dernière question de l'émission.
Le débat de midi sur France Inter.
Mes trois invités ont débattu autour de l'homéopathie. J'ai à présent une autre question à vous poser. Je voudrais connaître un sujet, quel qu'il soit, sur lequel vous avez déjà changé d'avis. On commence avec vous, Hélène Renoux, médecin généraliste et homéopathe. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Voilà, là, il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis, mais alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est à la toute fin de Harry Potter, quand j'ai su la vérité pour Rogue.
Oh, attendez, hein, ne gâchez pas tout.
Ah non, je ne vais pas spoiler. Mais ça a tout éclairé différemment, tout ce que j'avais lu, que j'avais adoré avant. En fait, les motivations des gens, elles sont généralement beaucoup plus subtiles que ce qui apparaît à la première lecture.
Et ça, vous avez changé d'avis là-dessus en le lisant. François Morel, c'est à vous. Je rappelle à ceux qui n'ont pas entendu le début de l'émission que vous n'êtes pas le François Morel de France Inter, mais un chirurgien anti-homéopathie. Vous avez changé d'avis sur quoi?
Sur plein de choses dans ma vie, énormément. Et si je devais en trouver une seule, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, jeune adulte, j'étais un tenant des théories conspirationnistes, notamment celle du 11 septembre. Puis j'ai fait des études. Puis j'ai compris que la méthode scientifique et j'en suis revenu. Donc j'ai changé d'avis parce que je me suis astreint à une méthode qui me permet aujourd'hui de pratiquer mon métier et aussi de comprendre un petit peu mieux le monde qui m'entoure et de rester humble face aux faits qui me sont présentés et pour les analyser correctement.
Donc vous comprenez parfois ceux qui souscrivent à certaines théories du complot ?
Complètement.
Vous sentez concerné, en tout cas à l'époque ? Martin Winkler, même question.
Moi, j'ai changé d'avis en lisant beaucoup de psychologie cognitive et en me rendant compte que les opinions que j'avais Je pensais que c'était des opinions rationnelles. Et en fait, quand on lit, par exemple, Daniel Kahneman, on sait que toutes nos opinions sont fondées sur nos émotions. Et pas sur on ressent une émotion d'abord et on la rationalise ensuite, ce qui entraîne des tas de biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on se met à
même si on est cartésien.
Mais ça n'existe pas, le cartésianisme. Ah. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Les deux fonctionnent tout le temps en même temps.
Et ça, vous avez changé là-dessus récemment ou longtemps?
Depuis 10 ans, en lisant beaucoup.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Hélène Renaud, présidente de la Société Savante d'Homéopathie. François Morel, chirurgien, signataire de la tribune des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives. Et Martin Vinclair, dont je rappelle le titre du dernier livre, Des Brutes en Blanc, ouvrage sur la maltraitance médicale. Prochain livre à paraître en novembre, je crois. Et ça concernera la douleur.
Ça s'appelle Tu comprendras ta douleur.
Tu comprendras. Vous allez encore vous faire des copains parmi vos confrères, je crois, là, non?
On verra. Mais c'est pas pour les confrères que j'écris.
Merci aux très nombreux auditeurs qui nous ont écrit sur ce sujet qui apparemment les passionne. Le débat de midi revient demain et on prendra deux fois des carottes râpées, les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise au cœur du débat, très souvent critiqués parce qu'on y mange mal ou pas assez bio ou pas assez local ou parce qu'il y a trop de viande. Il est même souvent assez mal vu de dire qu'on aime bien la cantoche, que ce soit à l'école ou au boulot. Alors tout est-il bon acheter à la cantine? C'est aussi un lieu important de socialisation, déjeuner ensemble, jamais en détail. Rendez-vous demain à midi, pardi.